Je suis parti ce matin même, encore sous de la nuit, mais pris comme des cœurements suprêmes, crachant mes adieux à Paris. Et me voici, ma bonne femme, oui, foutu comme quatre sous, mon linge est sale aussi, mon âme. Et me voilà chez nous. Ma pauvre mère est en lessive. Maman, 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 ton mauvais gars arrive. Au bon moment. Voici ce linge goûte à mainte et maintes fois un vin amer où des garces aux lèvres peintes ont torché leur bouche d'enfer. Voici mon âme plus grise, les mêmes souillures, hélas, que le plastron de ma chemise, gris, rose et lilas. Ma pauvre mère est en lessive. Maman, 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 ton mauvais gars arrive. Au fond du cuvier où l'on sème, parmi l'eau, la cendre du four, et tout mon linge de bohème repose durant tout un jour. Et qu'enfin mon âme pareille à ce déballage attristant, parmi ton âme, ô bonne vieille, repose un instant. Maman, ton mauvais gars arrive au bon moment. Tout comme le linge confie sa honte à la douceur de l'eau, quand je t'aurai compté ma vie malheureuse d'affreux salaud, ainsi qu'on rince à la fontaine le linge au sortir du cuvier. Mère, arrose mon âme en peine d'un peu de pitié. Et lorsque tu viendras étendre le linge d'iris parfumé tout blanc parmi la blancheur tendre de la haie où fleurit le mai, je veux voir mon âme encore pure en dépit de son long sommeil, dans la douleur et dans l'ordure revit.
Et tu me ramènes un sac tout boueux, tout sale, tout dégueulasse. T'aurais pu au moins le nettoyer, Eva. Je suis pas condamne de boire ta grand-mère. Eva, le sac sale, hélas, ça se lave. Eva, le sac sale, hélas, ça se lave.
Ouverture, comme à l'accoutumée, de dessous de scène avec un palindrome de Gérard Durand, le gérant du Rare, mais la vie n'étant pas un palindrome, Gérard nous a quittés. Mais on continue à diffuser ses œuvres. Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques. Pardonnez-moi d'avoir pris l'antenne avec un petit retard, j'étais repassé à l'heure d'été avec le dérèglement climatique. Et donc on va sauter les « je me souviens » et on va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec... Ben on a de nombreux invités aujourd'hui, un plateau énorme.
Bah oui, je sais pas pourquoi. Enfin, c'est comme ça, c'est peut-être parce que c'est l'automne, parce que c'est changement d'heure. Il y a un décalage, voilà. Décalage horaire. Mais c'est très bien. Plus on est de fous, plus on s'amuse. Alors, donc, aujourd'hui, on est très nombreux. Alors, au programme, il y a Rabelais, du Rabelais, du Isabelle Sprung,
du Molière.
Du Molière avec le malade imaginaire. Fabienne Elkoubi, Sophie,
moi je suis là avant,
et Jean-Marie Blanche, voilà, Jean-Marie Blanche qui dira un texte de, alors ça s'intitule « Lettre à un vieux schnock » et c'est un texte de Grégoire Collomb.
Et Evelyne Tran, bien entendu.
Ah non, c'est pas avec moi. Hein,
le... Non, je dis qu'il y a aussi Evelyne Tran.
Oui, oui, bien sûr. Enfin, bon. Alors, on va commencer. Parce que si vous voulez, vous présenter tous d'abord. Et ensuite, on commencera avec Philippe qui a le spectacle ce soir.
Ah bon, voilà. D'accord.
Voilà. Bon. Alors, on fait le tour de table. Chacun se présente.
Bonjour, je suis Sophie. Je suis comédienne. Ça fait très, très longtemps que je n'ai pas joué. En ce moment, je suis infirmière. Et j'ai amené des textes sur le thème du secret.
Bonjour, je suis Isabelle Sprung, je suis comédienne, auteure et je chante. Et je viens présenter le nouveau spectacle que nous donnons au Connétable avec le pianiste Patrick Langlade, intitulé « Guerre et paix ».
Guerre et paix, mais c'est pas un titre de roman de Tolstoï.
Oui, avec, j'ai rajouté un S parce que ça parle aussi de la guerre des sexes.
D'accord.
Spécial. Jacques Elkoubi, acteur et metteur en scène du Malade Imaginaire au temps du Covid.
Ah, c'était au temps du Covid.
Tout à fait.
Ah, d'accord. Et Fabienne?
Fabienne Elkoubi, chanteuse, et j'ai travaillé sur le spectacle de Jacques,
À l'Essayon.
À l'Essayon, l'enfer de Henri Barbusse, voilà. Et puis je suis venue avec mon dernier album, Mémoires Enchantées.
C'est celui-là que j'ai passé à Nicolas?
Voilà, tout d'accord. À fait.
Philippe, vas-y.
Alors, Philippe Bertin, je suis comédien, je joue dans une pièce au Théâtre Essayon qui s'appelle François Rabelais, Portrait d'un homme qui n'a pas souvent dormi tranquille, dont je suis aussi le co-auteur, voilà, qui est une vie de Rabelais. On reparlera tout
à l'heure. Et moi, Abayé, intermittent du spectacle à la retraite, et je fais une petite chronique sur le théâtre à Radio Libertaire.
D'accord.
Et donc, pour ne pas rater la tradition, donc, comme d'habitude, un peu de guimbarde. Radio Libertaire.
Voilà.
Bienvenue à Radio Libertaire. Et donc, je vous présente Philippe Bertin, qui est là, et dont j'ai vu le spectacle magnifique, Rabelais, un grand bonhomme, avec tout ce qui lui est arrivé, avec ses défenses de la liberté, etc. Il va nous en parler. Alors.
Oui, alors, c'est un spectacle qui se donne au théâtre de Essayons. Saillon, je connais bien d'ailleurs.
Pierre Hollard.
Ça dure une heure environ.
Ça dure 1h15, 1h10, 1h15. Ça se joue le vendredi à 19h15 et le samedi à 19h15.
Voilà. C'est un seul en scène.
Non, nous sommes deux acteurs. Il y a plus de personnages que d'acteurs, d'ailleurs. Ça se découvre.
Michel Laliberté, c'est celui qui s'occupe du Essayon.
Michel Laliberté est co-directeur du théâtre de l'Essayon.
D'accord.
Ce qui n'empêche pas d'être un très bon comédien.
Ça, c'est sûr.
J'ai vu le spectacle deux fois.
Ah, d'accord.
Et Jean-Pierre Andréani, le metteur en scène.
Voilà, Jean-Pierre Andréani, qui est le co-auteur aussi avec moi. Voilà. On a écrit ce spectacle tous les deux. Et il est très attentif à la mise en scène. Il vient très souvent nous dire... Il vient nous recadrer de temps en temps.
C'est historique, alors ?
Alors, l'idée, c'était de... C'était pas de jouer les œuvres de Rabelais, c'était de comprendre comment un homme a écrit ce qu'il a écrit. Enfin, comment un écrivain, pourquoi un écrivain écrit ce qu'il a écrit. Et donc, on s'est penché sur sa vie, ou du moins sur ce qu'on sait de sa vie, parce que c'est quand même un personnage qui est né en 1494, donc ça fait un bout de temps, les archives ne sont pas aussi précises qu'un peu plus tard. Et il y a des, aussi bien sur le moment de sa naissance ou de sa mort, il y a des fluctuations, les universitaires ne sont pas tout à fait d'accord à 10 ans près. Mais enfin, bon, on sait à peu près ce qu'il a fait dans sa vie. Et donc, on a découvert que pour écrire des histoire de géants extrêmement drôles, comme Gargantua, comme Pantagruel, eh ben, il a dû passer son temps à fuir, parce que derrière les choses énormes et rigolotes qu'il y avait, il y avait une critique de son temps qui était tout à fait...
Oui, c'était pour échapper à la censure.
Voilà, et donc pour échapper à la censure, il fallait pouvoir monter vite sur un cheval et aussi avoir de grands protecteurs, des protecteurs très importants. Comme il avait beaucoup de succès, il lui fallait des protecteurs très, très puissants.
Puis il avait un grand ami également.
Alors, il avait un grand ami qui est un personnage fictif qu'on a inventé, qu'on a appelé Clément. Alors, les gens disaient, est-ce que c'est Clément Marot? Ben non, c'est pas Clément Marot. Ça aurait pu, mais c'est simplement un condisciple médecin. Ils ont fait leurs études ensemble à Montpellier, à l'université. Et c'est très important parce qu'on le sait un peu moins, mais Rabelais a été un grand médecin de son temps.
Il a été aussi... curé.
Non, il a été prêtre. Mais oui, alors sa vie est un feuilleton parce qu'il a commencé par son père l'a placé dans un monastère. Et il n'était pas très sage, donc il s'en est enfui. Mais chaque fois que Rabelais il lui arrive quelque chose, c'est parce que il a été repéré par les gens de son entourage comme tout à fait un homme hors du commun. Il devient secrétaire du père abbé de l'abbaye, donc c'est plus facile. Après, il va changer d'abbaye parce que la faculté de théologie de Paris interdit l'étude du grec dans tout le royaume, donc il faut s'enfuir. Donc alors à ce moment-là, il va dans une autre abbaye. Là aussi, il est repéré par l'évêque du diocèse. Enfin, il a toujours des...
C'est un aventurier, de toute façon.
Oui, en gros, c'est un aventurier qui a eu, donc, il a eu trois enfants aussi, donc absolument illégitime, bien sûr.
Polygame à
l'époque. Alors non... Je pense que c'était peut-être avec la même une veuve qu'il avait rencontrée à Paris, du temps où il avait quitté son monastère, il était devenu prêtre. Bon, c'était pas prévu qu'il soit père en même temps qu'il pouvait être père spirituel, mais pas père
mais
de famille.
À l'époque, on pouvait être prêtre ou curé sans. C'était un habit, mais on n'était pas obligé de...
Il a quand même eu des petits problèmes à cause de ça. Il a fallu, grâce à ses relations, le pape a fini par reconnaître ses enfants naturels. Enfin,
mais donc, il était croyant.
Qu'il était tout à fait croyant. Seulement, il avait une conception un peu personnelle de ce qu'il avait envie de faire. Et comme il a découvert la médecine et qu'il n'avait pas le droit... de devenir médecin, parce qu'un prêtre ne devenait pas médecin, un moine n'avait pas le droit de soigner par le fer et par le feu, c'est-à-dire de mettre une lame dans le feu et puis soigner
et
quelqu'un cautérisé.
Et ça, on ne sait pas pourquoi.
Je ne suis pas assez spécialiste pour vous le dire. Mais donc, c'est la fuite tout le temps. Je vais donc à Montpellier faire des études et hop, je suis obligé de m'enfuir parce que je n'ai pas le droit.
Tout le temps,
une fuite. Et après, donc, il écrit quelques ouvrages de médecine, enfin des opuscules, et puis il se met à écrire une histoire de géant, qui c'est Pantagruel, le premier livre qu'il écrit. C'est un succès fou, et il y a évidemment une critique très grande. Et dans la première scène du spectacle, il y a un type qui est venu le voir pour le menacer, lui dire « Arrête d'écrire les choses que tu écris, parce qu'on sait bien que derrière la plaisanterie, la blague, il y a des choses que tu dis contre nous, tu veux détruire le savoir. » Et donc, le type finit par lui dire « Ce qui est très ennuyeux avec toi, c'est que tu es très célèbre. » C'est-à-dire qu'en fait, tes bouquins se vendent beaucoup. Sous-entendu, si rien ne se vendait, ce serait pas grave.
Mais à l'époque, quand même, c'était un peu plus. L'imprimerie a été créée une cinquantaine d'années avant, ou soixante-quinze ans avant, même pas. Et donc, quand même, il faut bien le dire, c'est les gens aisés qui pouvaient avoir accès aux...
Oui, bien sûr, mais surtout, il y avait une barrière de la langue, de toute façon, parce que les livres se publiaient en latin et en grec. Et donc, les gens, de toute façon, même des gens qui avaient appris à lire, pouvaient pas les lire, à moins d'être des savants. Et donc, il a comme ami Étienne Dolet, qui est un libraire et un éditeur, et qui, dans le projet de publier l'Évangile en français. Donc c'est un scandale, ça ne se fait pas, c'est impensable que des gens accèdent eux-mêmes aux Évangiles et à la Bible. Donc... voilà, et donc comme Rabelais défend aussi ces choses-là, il est honni et poursuivi.
Alors qui lisait Rabelais à l'époque, justement? C'est ça la question, parce qu'il est beaucoup lu, mais certainement pas par le petit peuple.
Non, certainement pas. Alors il y avait un type très célèbre qui le lisait, qui s'appelait François Ier, je crois.
Donc,
ça aidait un peu, parce que comme François Ier le lisait et qu'il lui disait, je peux te signer une autorisation de publier tes livres, de les republier et d'en écrire d'autres, évidemment, c'était très bien, mais seulement la Sorbonne, la faculté de théologie, était contre. Et donc, c'est la bataille entre le roi. Mais le roi, quand il part faire des campagnes, il s'en va un ou deux ans faire une guerre en Italie, et quand il revient, on a brûlé un tas de gens, et puis les bûchers sont froids. Donc, on dit, mais lui, il a été brûlé, oui, mais c'est comme ça. Alors, la pièce commence quand même le lendemain du jour où Étienne Dolet, qui est l'éditeur de Rabelais, a été brûlé à Paris, Place Maubert.
Oh, quelle horreur. Mais voilà. Il y a une rue, Étienne Dolay.
Mais oui, certainement, et peut-être pas loin de la place Maubert. Et quand je passe place Maubert, je pense au bûcher d'Étienne Dolay. Voilà.
Ah oui, quand j'y pense, tiens, je ne savais pas. Mais la rue Étienne Dolay, ça me dit quelque chose. Oui.
Voilà, et donc il y a eu une statue d'Étienne Dolay, je crois, place Maubert, et quelqu'un m'avait expliqué qu'il avait été brûlé une seconde fois parce qu'on avait fondu la statue pour faire, pour faire des boulets de canon, enfin, un peu plus tard.
Il a été
donc,
brûlé,
décidément, il a été brûlé. La statue aussi a été brûlée, si je puis dire.
Terrible,
a été fondue. Voilà, enfin, donc, Dolay est brûlé, et donc, c'est un signal pour Rabelais, maintenant, il faut que je passe mes bagages à toute vitesse et que je m'en aille. Et là, comme il est médecin...
Le parallèle est un peu exagéré, mais ça fait penser à Salman Rushdie.
Ah, mais totalement. Depuis que nous avons commencé, il a été poignardé. Depuis que nous avons commencé, Samuel Paty a été assassiné. Tout ça pour le savoir.
Ouais.
Voilà. Et il y a une phrase qu'on dit dans le spectacle... à un moment donné, Rabelais dit cette phrase, il cite Copernic, disant que de toutes les haines, il n'en est pas de plus grande que celle de l'ignorance contre le savoir. Voilà, donc ça a été, c'est pas une chose récente, et les combats pour la prise de parole librement sont toujours là.
Oui.
Et je suis obligé d'avouer une chose qui est, je suis obligé d'avouer quelque chose là, qu'on ne va pas dire dans le spectacle, mais ce n'est pas Copernic qui a dit cette phrase, c'est Galilée. Il y aurait eu un anachronisme dans le spectacle. Donc, mais on a pensé que ces deux personnages étaient suffisamment en relation pour qu'on puisse voilà, lui attribuer à Copernic, mais c'est vraiment Galilée qui a dit cette phrase-là. Donc des gens qui étaient en perpétuelle lutte avec l'Église, qui leur disaient « tu n'as pas le droit de dire ça, on ne peut pas faire ça, on ne dit pas que la Terre est ronde », tout ça. Voilà, donc c'est une guerre qui continue aujourd'hui dans certains pays de manière extrêmement aiguë.
Ah oui,
les gens qui voient le spectacle ne s'y trompent pas.
Exactement, moi c'est une phrase que j'ai toute notée, je te l'ai dit après le spectacle d'ailleurs. Cette haine du savoir, c'est quelque chose qui est très...
Parce que le savoir libère et surtout il donne un sens critique. Et donc il faut éviter que les gens aient un sens critique.
Est-ce que dans le spectacle vous faites référence justement à des œuvres de Rabelais?
Oui, on fait référence à Gargantua et à Pantagruel essentiellement. Et dans la deuxième partie du spectacle, Rabelais vient d'écrire le tiers livre.
D'accord, voilà. Très bien. Vous pouvez nous faire un tout petit extrait?
Oui, je peux faire une chose, c'est que... alors, donc, il y a un moment donné, on voit Rabelais en train d'écrire la préface de Gargantua. Et donc, en fait, c'est un texte extrêmement célèbre dont on voit la fabrication sur scène. C'est, je vous le lis. Alors, donc, Rabelais est avec il faut l'imaginer avec son écritoire, avec sa plume, et il est en train de réfléchir à comment il peut écrire cette préface. Il a une idée. Un chien. Vite-vous, un chien rencontrant un os à moelle. Il est, comme dit Platon, la bête du monde la plus philosophe. Voyez de quelle dévotion il guette son os, comme il le protège. Avec quelle ferveur il le tient, avec quelle prudence il l'entame, de quelle affection il le brise et le suce. Qui le pousse à agir ainsi? Quel est l'espoir de son étude? À quel bien prétend-il? Rien qu'un peu de moelle. Vrai que ce peu de moelle est plus délicieux que le beaucoup de toute autre chose diverse, pour ce que la moelle est aliment élaboré. À l'exemple de ce chien, vous, lecteur, vous convient d'être sage, pour flairer, sentir et estimer ces beaux livres, et puis par curieuses leçons et méditations fréquentes, rompre l'os et sucer la substantifique moelle, avec l'espoir certain d'être fait avisé et brave par cette lecture.
Ah, bravo, c'est bien. Voilà. C'est la langue aussi. Hein.
Ah, c'est la langue de Rabelais. Alors, on l'utilise. Et la fin de la pièce, c'est. Rabelais et son ami, son compagnon, Clément, s'amusent ou se regonflent. Parce que Rabelais, à un moment de déprime, il lui dit: mais tu te rends compte, ce que tu as écrit, c'est tellement beau. Et ils se mettent à lire ensemble La guerre picrocolline. Ils la lisent pas, ils la vivent. Et La guerre picrocolline, alors là encore, les déclenchements des guerres, La guerre picrocolline, ça fait penser à des gens qui sont des vats en guerre aujourd'hui, qui déclenchent des guerres, comme ça, par ambition personnelle. C'est ce que fait, alors c'est encore le combat contre la bêtise. Hein,
oui.
Voilà. Donc la pièce finit un peu en feu d'artifice, comme ça.
Est-ce qu'il y a un extrait sur YouTube ou pas? Sur le site de Les Saillons.
Je pense que ça doit exister. Oui, je suis pas. Oui, je crois qu'il y a un extrait sur le site de Les Saillants.
Il y a une
bande-annonce.
Il doit y avoir une bande-annonce sur le site de Les Saillants. Oui, elle doit être trouvable. J'imagine que vous êtes en train de la chercher.
Alors, on va redire où ça se passe. Il faut le dire plusieurs fois.
Alors, bien sûr. Alors, Théâtre Les Saillants, donc rue Pierre Aulard, c'est derrière le Centre Georges Pompidou, hein, dans la rue derrière. Et c'est donc vendredi à 19h15 et samedi à 19h15. Vous êtes libre pour le dîner à 8h30. Hein. Parce qu'en général, Rabelais, ça donne faim et soif.
Ah oui,
il y a d'ailleurs. D'ailleurs, on boit dans le spectacle pas mal. Enfin,
ça dure jusqu'à quand?
Et ça dure jusqu'au 10 décembre. Ah, voilà. Voilà.
D'accord.
Est-ce qu'il y a une tournée éventuellement?
Alors, il y a une tournée qui est en préparation, puisqu'on a fait le Festival d'Avignon l'été dernier. Et il y a une tournée en préparation. Il y a des villes, on va aller à Brive-la-Gaillarde. Ah. On va aller. J'ai pas tous les noms en tête, c'est la dernière ville qui s'est rajoutée là, donc je ne sais pas, mais il y a plusieurs villes comme ça. D'accord. Où on va se rendre. Oui, dans le courant de l'année prochaine.
Très bien.
Voilà.
C'est bon? On va passer la bande-annonce.
Ah, il a trouvé la bande-annonce.
Qu'est-ce que tu as? Puissant donc, plein urinal, se asseyait à table et commençait son repas, un cofribas nasier. Tu n'as pas osé signer tes ouvrages de ton propre nom.
Mais mettez les lettres à l'envers et vous retrouverez François Rabelais.
Ce n'est pas là. La bibliothèque d'une abbaye, moi je dis. Obscénité, impiété, sacrilège!
En lisant mes livres, ne vous scandalisez pas, ils ne contiennent ni mal ni infection. Mieux est de rire que de larmes, écrire pour ce que rire est le propre de l'homme.
Tu riras moins quand tu monteras sur le bûcher.
En vérité, je ne croyais pas l'épée si près de ma tête. Mais tu te caches comme un malfaiteur, mais quelle folie! Quelle est cette existence que tu mènes?
S'il faut fuir pour avancer, je fuis.
Mais ne crois pas que je t'oublie, cher compagnon. Qui a partagé avec moi tant de découvertes et de joies. Écrivain célèbre, mais sans argent et persécuté. Que faire? Qui voir? Quel protecteur? Le plus influent, sans doute. Mais l'est-il suffisamment pour me protéger?
Alors, mon ami, pourquoi cette visite ce soir? L'évêque que je suis aimerait bien pouvoir attaquer la faculté de théologie. Quelle outrecuidance de prétendre condamner les hommes au nom de Dieu. Ceci n'est pas mon rôle.
Petite question, la langue de Rabelais est lisible sans adaptation?
Alors, elle est... oui, parce qu'elle est un petit peu modernisée par nous, mais pas tant que ça. Mais quand un acteur connaît le sens de ce qu'il dit, ce sens passe, tout le monde comprend de quoi il s'agit, donc il n'y a aucun problème. J'ai jamais entendu des gens dire qu'il rate peut-être un mot ou deux, mais personne n'a jamais dit qu'il ne comprenait pas. Et en plus, on joue des choses. La guerre picrocoline, elle est jouée, donc de toute façon, on a vraiment, je suis formel, il n'y a aucun problème.
Quand j'avais lu Rabelais au lycée, on m'avait donné le livre, j'avais regardé, et puis j'étais allé chercher plus loin, notamment sur les pages un peu sur l'utopie, sur la fin, et puis j'étais tombé aussi sur le torche-cul. Vous y faites référence ou
non, pas? Non.
Le côté, ce qu'on qualifie de rabelaisien.
Oui, c'est ça, le côté un peu eschatologique, oui. Ben, y a, dans la guerre picrocoline, le lieutenant de picrocole s'appelle Capitaine Merdaille.
C'est déjà pas mal.
Oui, il y a des choses comme ça.
On n'est pas loin du but.
Oui, pas loin du but, oui, exactement. Voilà. En tout cas, ça a l'air super vivant. Hein, comme ouais.
Oui, et puis il faut être en forme pour y aller.
Pourquoi il faut être en forme?
Ah non, je ne parle pas du spectateur, je parle des acteurs. Les acteurs, on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer en une heure et quart. Là, c'est extrêmement physique, il faut beaucoup d'énergie. Mais Rabelais amène de l'énergie. Dire les mots de Rabelais, dire les mots charnus de Rabelais, ça apporte de l'énergie.
Dès que je pourrais, j'irai voir le spectacle.
Et puis il y a différents rythmes, tu as envie de redire?
Non, enfin je sais pas, je préfère qu'on pose des questions, mais voilà.
Il y a différents rythmes aussi dans le spectacle, il y a des moments qui sont un peu plus émouvants, un peu plus intenses, un peu plus lents, et puis il y a des moments beaucoup plus vivants, beaucoup plus rapides, et je trouve que c'est un spectacle très enlevé, très intelligent, sensible, et aussi érudit, très bien écrit et très bien joué.
c'est sûr qu'après ça, tout le monde va se précipiter pour lire le Rabelais.
Bah, c'est ce qui se passe souvent, les gens disent, on a envie de relire ça, etc. Absolument. Alors c'est vrai que quand on lit Rabelais, ben, moi j'avais l'édition du livre de poche, j'ai toujours, même quand j'étais lycéen, c'est la même, sur laquelle j'ai travaillé après. Bon, sur la page de droite, il y a le texte, et puis après, il y a quand même des explications de vocabulaire, de mots, c'est nécessaire. Mais sauf que sur scène, non, c'est pas nécessaire pour le public dans la salle, non. Mais pour quand on lit vraiment dans le Rabelais, dans le texte, il faut quand même céder un peu. Voilà.
Non, alors, il y a un adjectif souvent qui revient, on dit rabelaisien.
Oui, alors donc, ça, bah, rabelaisien, je pense que pour tout le monde, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, c'est un peu, ça peut être un peu paillard, ça peut être la bonne bouffe, ça peut être gay. Mais justement, derrière rabelaisien, eh ben, il y a un homme qui dit des choses très importantes sur son époque et sur l'homme. En général, l'homme, l'humain.
C'est
général.
Un humaniste de toute
oui,
façon.
Oui, c'est un humaniste, voilà. Même si le mot n'est pas vraiment en service, si je peux dire, à l'époque.
Non, parce que derrière la grosse farce, voilà, il y a quand même une.
Voilà. Il dit à un moment donné, il dit, j'ai si peur que ce qu'il y a de drôle dans mes livres fasse oublier l'essentiel. On a mis cette phrase dans le spectacle, on le fait parler en disant ça, parce que c'est une chose qu'on a trouvée dans ses lettres. Il y a une douzaine de lettres de Rabelais qui existent encore, et donc il dit ça à un moment donné, qu'il a peur que les gens ne voient pas derrière le rire les choses importantes qui y sont.
Mais toi, tu les soulignes bien, les choses importantes.
Ah bah écoute, j'ai la chance d'avoir Jacques dans le studio, qui a beau spectacle aussi, comme moi.
Voilà, alors là, je vais vous présenter une artiste qui est...
Peut-être qu'on peut te libérer, si tu veux.
Non, du tout.
Isabelle, est-ce que vous connaissez
oui, bonjour.
Isabelle?
Alors moi, je ne la connais pas.
Eh bien, il faudrait bien Michel la liberté.
Ah bah très bien, alors voilà.
Vous lui passerez le bonjour de ma part.
C'est ce que je vais faire dans pas longtemps.
Alors Isabelle Sprung, moi je trouve qu'elle a un petit côté rabelaisien. Est-ce que tu es d'accord ou pas?
Oh, c'est gentil.
Oui. Non, mais c'est vrai, il faut la voir sur scène hein, pour s'en rendre compte. Hein. Elle a une présence extraordinaire sur scène, Isabelle. Bon, je dis Isabelle, je voudrais dire Isabelle Sprung, parce que quand même... bon. Mais, excuse-moi, bon, je te tutoie, parce que ça fait longtemps que...
On commence à se connaître depuis un certain temps, maintenant.
Oui, c'est ça, voilà.
Voilà.
Et donc, c'est Fabien, un auditeur de Radio Libertaire, qui m'a parlé de ton spectacle « Guerre et paix ».
Ah, voilà. C'est mon bienfaiteur.
C'est ton bienfaiteur.
Oui, il veille sur moi.
Ah bah c'est, voilà. Et donc, « Guerre et paix », je me posais la question, mais il y a quelque chose, ça me rappelle un titre, donc effectivement, Tolstoï.
Oui,
mais,
bien sûr.
Bon. On va quitter Tolstoï parce que c'est quand même bon, c'est la grande fresque, l'épopée, enfin bon, et puis il faut l'avoir lu aussi hein. Bon, je suis pas sûre que tout le monde l'a lu jusqu'au bout, mais enfin Guerre et paix, c'est un voyage musical à travers des chanteurs, des chanteuses, des chansons.
Oui, il y a des chanteurs aussi cette fois-ci.
Ah,
parce que dans le spectacle précédent de Fréhel à nos jours, c'était vraiment focalisé sur la vie des chanteuses réalistes. Et là, je me permets de chanter des chansons pour des hommes par des hommes également, pas seulement des femmes.
Pas ah, seulement, d'accord.
Pas seulement la voix des femmes.
Donc, ce sont des chansons qui datent de l'avant de 1900.
Non, il n'y a pas de date non plus. C'est pas du tout daté. La dernière fois, c'était daté, chanson réaliste. Là, c'est vraiment par rapport au thème et par rapport à ce qui m'interpelle que j'ai pris, que j'ai fait les choix de chansons avec Patrick. Je lui propose des chansons.
Ouais.
Il me dit, oh, vous ne pourrez pas faire ça.
Ah, bah d'accord.
Je dis, mais c'est... Et puis, bon, c'est un temps d'argumentation. Parfois, on fait un essai, deux essais. Je dis, mais si, on va y arriver, vous allez voir. Non, je crois pas. Puis, au bout d'un moment, on décide si on les garde ou pas. Voilà.
Ah, d'accord. Lui, il est au piano.
Oui.
Et toi, au chant. Voilà. Et puis, peut-être des petites scènes aussi. Parce que tu es comédienne aussi, là.
Oui, ce que j'adore, c'est quand on me dit en sortant « Quelle tragédienne !» Je dis « Bon, d'accord. »
Bah oui, si tu chantes Piaf, effectivement, et même Barbara, tu chantes Barbara aussi.
Oui, Göttingen.
Ouais, ouais.
Parce que c'est sur la paix.
Oui, c'est sur la paix, ouais, ouais. Voilà. Boris Vian,
parce que c'est sur la guerre.
Ouais.
Et Puis j'ai des projets aussi de rajouter d'autres chansons. Il y en a une de Boris Vian où il parle de la guerre des sexes, où il y a sa femme qui l'attend après le défilé, parce qu'il est parti boire avec son copain, il ramène son copain, elle l'attend avec le rouleau à pâtisserie, et puis il se retrouve au paradis des pochetrons.
Ah oui, d'accord.
Mais ça, on l'a pas encore mise.
Ah, il faudra la mettre, hein, celle-là. Hein.
Oui, là, on n'est pas là pour tout. Oui, oui.
Et donc. On va le défier. Alors, qu'est-ce que. On va peut-être écouter un extrait, ou alors. Tu m'as amené deux disques.
Oui,
il y en a un, c'est. Alors, il y a la ride, moi j'adore, mais ça n'a rien à voir avec Guerre et Paix, mais si, c'est
bah,
guerre.
C'est la c'est bagarre guerre. Devant le miroir.
Exactement, voilà. Voilà. Oui, la guerre, on peut la mettre à toutes les sauces, hein, effectivement.
Malheureusement,
mais,
oui.
Ouais, malheureusement. Mais il y a comment on appelle ça ? C'est pas YouTube, c'est un clip. Ou un clip avec, sur la ride qu'on trouve sur Internet,
oui.
Qui est désopilant et puis magnifiquement réalisé. La
oui.
ride.
Il faut dire merci à Félix Delarue et à Elisabeth Selem.
Ah, il faut regarder ça. Hein, la oui. ride, c'est vraiment désopilant. C'est extraordinaire. Moi, j'adore. Chaque fois que je le regarde,
Tu rajeunis.
Non, je rajeunis. Enfin, je ne sais pas, mais je souris. Je rigole, quoi. Voilà. C'est très drôle, la ride. Et puis, Ohé les copains, alors, tu m'as dit de...
Oui, Ohé les copains, c'est une chanson que chante Fréhel. Et ce que j'ai remarqué, c'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, Fréhel et Edith Piaf ne se sont pas arrêtés de chanter. Et c'est pas les seuls, bien sûr. Mais ça leur a été reproché. Alors, qu'est-ce qui leur a été reproché de chanter pour les soldats allemands, enfin les SS, pas les pauvres troufions, on leur a reproché de chanter, tout simplement. Mmh. Alors que Marie Dubas, elle a été exilée pendant la Deuxième Guerre mondiale parce qu'elle était juive, donc elle était obligée de se sauver, et elle chantait de Suisse. Donc on ne lui a pas fait de reproche, évidemment. Mmh. Mais ça a quand même... couper sa carrière en plein vol. Et donc, je chante dans ce spectacle Ohé les copains, parce que ça, elle chantait pendant la guerre, et puis elle chantait des trucs rigolos. Et je trouve que c'est carrément étonnant. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait là, on a l'Ukraine à nos portes. Enfin, y a tout le temps des guerres. Tout le temps. Et nous, on continue de
vivre. Oui.
Et donc, pourquoi on est étonné que des gens, pendant la Deuxième Guerre mondiale, riaient, chantaient, etc. Donc, je mets des chansons comme ça dans le spectacle qui sont légères. Il y a la Java bleue en pleine Deuxième Guerre mondiale. Et puis, il y a... tout va très bien, Madame la Marquise.
Ah oui, celui-là, il est drôle, hein. J'aime
oui,
bien aussi
mais,
celle-là.
De Ray Ventura, qu'est-ce qu'elle montre ? C'est la montée du nazisme, mais tout le monde dit que tout va très bien.
Ah, voilà.
Donc c'est une métaphore de la montée du nazisme.
D'accord.
En 1936.
Ouais.
C'était bien parti déjà. Hein.
Tu as fait un disque où on l'entend
Non, pas encore.
Avec la Marquise, oui, je dis.
Non, pas encore. Non, c'est sur le net des extraits.
Oui. Des extraits, ouais. D'accord. Ben, on va écouter Ohé les copains ?
Oui.
Ohé les copains, venez vous rincer la gueule. Ce soir, je suis toute seule. Il est mort ce matin. Ça fait rudement longtemps qu'on était tous les deux. Moi, j'avais 18 ans et lui dans les 22. Il m'a tout fait quitter, mon père et puis ma mère. C'était pour me faire goûter à toutes les misères. Oh, et les copains, venez vous rincer la gueule. Ce soir, je suis toute seule. Il est mort ce matin. C'était un beau salaud, qu'en foutait pas une rame. Pour un verre de Pernod, l'aurait vendu son âme. Quand il était bien saoul, il tapait comme une brute. Il connaissait ses coups, on aurait dit de la lutte. Oh, et les copains, venez vous rincer la gueule. Ce soir, je suis toute seule, il est mort ce matin. Des fois il me trompait, ces choses-là ça m'écoeure. Et quand il revenait, il ronflait 24 heures. Pourtant il y avait des jours, ça c'était une merveille. Il me parlait d'amour quand je rapportais ma paye. Oh et les copains, venez vous rincer la gueule. Ce soir je suis toute seule, il est mort ce matin. Mais je ne sais pas ce qu'il y a. C'est pourtant pas normal, rien que de parler de tout ça. J'ai le cœur qui fait mal, ça c'est vraiment marrant. Y a comme quelque chose qui cloche, c'est quand j'ai eu 20 ans, il m'a donné cette broche. Et les copains, venez vous rincer la gueule. Ce soir, je suis toute seule, il est mort ce matin. Allez les copains, je reverrai plus sa gueule. Ce soir, je suis toute seule, il est mort ce matin.
T'as donné envie de faire justement ce petit cocktail de chansons sur le thème guerre et paix. C'est l'actualité.
Oui, bien
c'est...
sûr, l'actualité. Ah, oui. On a tellement martelé, c'est la guerre. On est en guerre pendant la période où nous étions en confinement et puis la Syrie, les migrants, la Palestine, Israël, l'Ukraine. Enfin, depuis que je suis née, on ne parle que de la guerre. Ouais. Et je pense à la paix, toujours, oui.
Ça continue.
Et ça continue, ça prend des formes différentes, des ampleurs différentes. On a dit plus jamais ça, il y a eu d'autres génocides. Donc je me suis dit, bon, j'ai parlé pendant quelques années des chanteuses réalistes, du ruisseau, d'où elles sortaient, ou dont elles ne sortaient pas, et tout. Mais en fait, il n'y a pas qu'elles qui souffrent, en fait. Et nous, les artistes, je parle pour les autres artistes, je pense qu'ils vont être d'accord avec moi, on est là pour montrer ce qui ne va pas. Mm-hmm. Et dire, alors, regardez, après, Vous allez prendre une forme drôle, tragique, là, vous allez peindre, faire une performance. Mais toujours, c'est toujours ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, on voudrait la paix, mais on a des moments de paix, parce qu'il faut les arracher à la vie.
Oui, oui, effectivement. Et puis, il faut s'estimer heureux quand on vit en temps de paix, quoi, parce que effectivement, c'est un parfois on a presque l'impression que c'est un privilège, quoi, dans ce monde d'avoir l'impression d'être en paix, quoi.
Oui.
Voilà. Et c'est vrai qu'on oublie ce qui se passe. Enfin, parce qu'on pourrait plus vivre si on était tout le temps en train de penser à la guerre. Je veux dire, alors dans ce cas-là, non, mais c'est vrai. Mais les artistes, ils trouvent le moyen de parler des choses qui font mal. Mais d'essayer d'en parler, mais de...
C'est un témoignage, hein.
Oui, voilà, des témoignages, mais en même temps de redonner quand même de l'espoir, quand même. Enfin, je veux dire, du courage, quoi. Il faut garder la...
Absolument.
Il faut garder le flambeau, quoi. Il faut toujours avoir... Parce que ça aide, hein, il ne faut pas croire, hein. Je pense à Robert Desnos, par exemple. Lui, il était... Enfin, c'est un exemple parmi d'autres, mais j'ai lu que quand il était en camp de concentration, eh bien, pour redonner du courage à ses amis qui étaient déportés comme lui, eh bien, il leur lisait des poèmes. Il leur disait des poèmes. Et même, il a dû écrire en camp de concentration. Eh bien, c'était un baume pour ces gens-là. Ça les aidait quand même à garder la dans la mesure du possible la tête haute, de pas avoir l'esprit quand même de se dire bon d'accord on est mal tombé etc, mais on est là et on résiste déjà par la pensée, on résiste et on va passer le témoin, le flambeau à
on
d'autres personnes rien. Pour la résistance. Et ça, je pense que ça, la poésie, la chanson, l'art, enfin, ce sont des moyens de lutte. Ce sont des moyens de lutte. On peut pas s'en passer.
Et ce sont des moyens d'avoir du courage.
Des moyens d'avoir du courage. Oui.
Et puis la mémoire, c'est important. Capital.
C'est important, oui, effectivement. Oui.
Capital.
Ah oui, mais je suis très très étonnée et très touchée des réactions des jeunes qui viennent écouter mes spectacles. Parce qu'ils me disent qu'ils ne connaissaient pas du tout ces textes-là, ces mélodies-là, ces chanteuses-là. Là, ils ne m'ont encore rien dit parce qu'ils ne sont pas encore venus. Mais
il paraît que ça s'est bien passé la dernière fois.
Mais il y avait un jeune Suédois.
Un jeune Suédois.
Oui, qui était très content.
Ah, d'accord.
Mais il ne m'a pas dit, je ne connaissais pas, etc. Parce que comme c'était un Suédois, évidemment, il ne connaissait pas. Mais,
oui, d'accord.
Mais j'ai entendu des drôleries, comme ça. Bah, moi, ça me fait rigoler. Mais un jeune homme qui m'a dit, « Oh, mais mon légionnaire, je croyais que c'était Gainsbourg qu'il avait écrit. » Enfin, qu'il avait créé. Et... après, quelques années après, parce que le temps a passé, il y a eu le confinement, etc. On m'a dit, oh, Gainsbourg, je ne connais pas.
Ah oui.
Ça commence maintenant. On commence à me dire, Gainsbourg, je n'ai jamais entendu parler.
Oui, parce qu'on ne se rend pas compte qu'on vieillit, et puis qu'il y a d'autres générations qui arrivent, et puis qui ont d'autres artistes. Voilà, quoi, c'est comme ça. La route tourne un peu, mais c'est comme un tour de manège. Peut-être qu'on oublie un petit peu Gainsbourg, mais on va y revenir. Il faut faire un tour. Hein. C'est comme la terre qui tourne. Oui, non, mais je crois. Hein.
À propos de mémoire.
Et son ravi, il réclame une playlist.
À propos de mémoire, c'est la première fois que l'Assemblée nationale s'ouvre aussi aux étrangers. Et là, le 17 octobre, on a été invités, justement, et dont moi, le premier, pour lire des textes de Katia Biassine sur l'appel au peuple français, ce qui s'est passé avec Maurice Papon à l'époque. Voilà, et donc c'est très important.
Ah oui, en effet.
Bravo.
On redit où ça se passe, le spectacle, alors?
Alors, ça se passe au Connétable.
Alors, je ne fais pas de publicité, mais ils font un restaurant aussi. Un bon restaurant. Hein,
très bon.
Ah, des archives.
Oui,
des archives.
Alors, c'est une cave. En fait, c'est très bien. Ça recrée l'ambiance... de certaines époques, comme ça. Boris Vian, il a passé un an dans les caves à faire ses spectacles. Je dis un an parce que c'est ce que je viens de découvrir.
Au Connétable ?
Non,
non, non,
à Saint-Germain.
Bah, à Saint-Germain, ouais.
Mais il n'est pas resté longtemps parce que comme il savait qu'il était condamné à mort par une maladie du cœur, je crois, il voulait vite changer d'expérience. Mmh. Il ne restait pas longtemps dans un
endroit. Oui, c'était le tabou, enfin une boîte de nuit aussi, voilà. Tabou, oui.
Et donc, ça recrée des ambiances comme ça, je trouve que...
Ah non, mais c'est très très sympa.
Je suis très contente
pour
ça.
Y a, qui c'est que j'allais voir, là? J'en ai vu plusieurs, Sarcloré, oh, je sais plus, il y a un nom qui m'échappe, là. Plusieurs, j'ai vu plusieurs artistes qui sont venus à Radio Libertaire au Connétable. J'en ai vu beaucoup, ouais. Oui, oui, oui. Et vraiment, c'est vrai que ça vaut le coup, mais évidemment... Les artistes qui se produisent, ils ne gagnent pas une fortune. Hein. Enfin, c'est sûr.
Ça dépend.
Ah, ça dépend. Oui, d'accord.
On peut très bien avoir plein de vues sur YouTube, donner des masterclass, enfin, je ne sais pas.
Oui, oui, bon, ben
bah,
d'accord.
Je ne suis pas sûre qu'ils soient si pauvres que tous que ça, je ne sais rien.
Non, ce n'est pas ça, c'est qu'il y a. Oui. C'est une petite jauge, quoi, je veux dire.
Oui, la petite jauge, oui. Surtout que moi, depuis qu'il y a les gestes barrières, je ne pousse plus à la consommation comme avant. J'accepte d'avoir des salles moins remplies.
Qui est de la qualité, quoi.
Pour que les gens se sentent bien.
D'accord. Donc, tu te produis une fois par mois.
Oui, à 19h30.
Oui.
Comme les poules.
Tous les jeudis.
Non, un jeudi par mois. Donc, pas tous les jeudis.
Enfin, tous les jeudis, une fois par mois. Ah oui, donc ça fait voilà. un jeudi par mois.
17 novembre.
Oui.
17-11-2022 et 15 décembre.
Et puis ensuite, peut-être en 2023.
Mais ça dépend de vous.
Oui, d'accord.
Si vous venez tous très nombreux, jusqu'à 19
d'accord.
personnes. Non, ça c'est...
Bon,
on ne sait jamais ce qui va se passer.
En plus, la participation est au chapeau. Hein. Alors, oui. Si vous êtes un peu fauché, bon, ben, c'est pas grave, hein, vous pouvez venir.
Vous venez avec des gens riches.
Hein?
Vous venez avec des gens riches.
Oui, c'est ça, voilà, exactement.
Il faut consommer aussi.
Non, c'est pas obligatoire.
Non,
hein.
on ne peut pas la consommation.
Non, c'est la bonne franquette quand même, hein, franchement. Non, non, il y a aucune
Françoise,
obligation.
La directrice du Connétable, elle est exemplaire, je trouve, parce qu'elle ne m'a jamais cassé les pieds là-dessus. Ah,
ça, c'est bien.
C'était vraiment très, très agréable.
Et c'est vraiment une amoureuse de la chanson. Elle est amoureuse de Maurice Fanon. Donc maintenant, elle est amoureuse de la chanson.
D'accord.
Eh bien, espérons. Enfin, je pense, hein, Laurent Garibian est un fan de tes spectacles. Hein. Il t'écrit des très, très beaux articles.
Oui, merci, oui, voilà. Merci beaucoup à Laurent. Merci à Radio Liberté, de toute façon, de votre soutien depuis des années maintenant.
Là, puisque je parle de Grégoire Colomb,
oui.
Peut-être qu'on pourra passer. Alors, c'est un peu spécial, hein. C'est une composition à partir d'un texte de Grégoire Colomb qui s'appelle Lettre à un vieux schnock. C'est très spécial. Hein.
Pendant que j'étais en cloque, je me suis tiré à mon coq pour m'associer à un shintok dans un putain de trafic de coq. Une vraie tuerie. Mais un jour, un staphylocoque, ou bien était-ce un gonocoque, m'a forcé à quitter les docks sur mon luxueux multicoque. Oh, c'est bien fini. En tirant un trait sur mon coq, j'ai abandonné la défroque d'un voyou expert en provoque. Je me croyais fort comme un roc. Mais... à Paris, eh ben, depuis mon retour de Bangkok, je crèche rue du docteur Enoch, d'où je t'écris, le cœur en loque, et je morale, mon moral est de briquet de broc. Bon, c'est promis. Entre nous, plus jamais de croc en jambe. On pourrait faire bloc. Alors, on trouve la solution ad hoc. Eh bien, moi, je deviens sinoc. Car aujourd'hui, sans vouloir te causer un choc, que je te l'avoue, pas d'équivoque pour toi. J'ai plein d'amour en stock et c'est pareil et pas du toc. Pour Nathalie, et là, c'est la vie. Va prendre un compte plus baroque. Nathalie et son groupe de rock viennent d'arriver au pays d'Oc pour faire plaisir à Papa Schnock. Car celui-ci, dans le coin, possède un petit bicoque d'où le père et fille sans équivoque repartiront gonflés à bloc grâce à ce nouveau starting block. Épousons en bouche et c'est loufoque. Mais moi, François Couperin, dans le tic-tac-toc ou un concerto de Bartok. Il est midi. De coq pour déguster un plat de manioc, puis d'excellents œufs à la coque, accompagnés d'un bon médoc. Ah, rêves-tu à lui? Papy, vois. Qu'il est 5 o'clock. Il ira fixer un pare-choc sur la Maserati d'époque après avoir bu quelques bocs. Bon, alors, tout ça, c'est écrit par Laurent Coyon, plus connu sous le pseudonyme de Grégoire Garibian, ou alors c'est le contraire, enfin, je sais plus. Mais la musique, elle est de Jean-Marie Blanche, musique à la voix profonde. D'abord, tout ça a été fait le 21 octobre 2022 et il est 11h15. Merci.
Bravo.
Génial.
Ouais. Eh ben dis donc.
Ouais, ouais, ça t'a enregistré hier, hein, avant génial. Que je parte.
Vraiment bien.
Ouais.
Il y arrive quand même.
Super.
Ça ne nous plairait pas à Rupert Murdoch.
Et toc. Alors, sans transition, nous passons au malade imaginaire.
Oui, qui est peut-être un vieux schnock.
Bah oui.
À cause des gonocoques.
Et de tous les virus.
Soigné par
un docteur. Alors, archaïque.
J'ai pas vu le spectacle, mais Moa l'a
oui,
vu.
Oui, absolument. Magnifique.
Ah ouais.
Très très bien, réussi. Et je crois ce que disait Dominique, Molière aurait été enchanté de voir ce spectacle-là, complètement réinventé, recréé. Et bravo.
Alors, c'est le malade imaginaire au temps du Covid. Hein,
voilà, c'est la mise en scène. Le texte est de Molière. Enfin, on a coupé quelques longueurs et quelques archaïsmes, mais c'est le texte de Molière. Mais dans des costumes d'aujourd'hui, avec
les masques.
Avec les masques à certains moments.
À certains moments.
Avec le gel, avec plein de petites idées comme ça, pour faire rire. Et je crois que ça permet aux gens de rire de ce moment-là.
Complètement.
C'est apparemment assez libérateur, en tout cas.
Et c'était plein.
Archi plein. Ouais. Et en tout cas, les spectateurs qui sont venus nous en parler disaient que ça leur a fait du bien.
Ouais. Ah,
donc
tant
ça,
mieux.
C'est chouette. Voilà. Et on a remplacé les intermèdes de Molière par des chansons d'aujourd'hui. Voilà.
Ah,
donc il y a
d'accord.
un côté aussi comédie musicale, des passages un petit peu dansés et chantés. Mais en tout cas, sur le texte proprement dit. Voilà,
c'est toujours Molière.
Il y a une réinvention, c'est-à-dire c'est toujours Molière, mais. Du coup, on entend la modernité des situations.
Mm-hmm.
Et avec le même texte, les femmes aujourd'hui jouent très différemment. Elles font entendre ce besoin de se libérer, justement, de pouvoir atteindre au savoir aussi et de choisir leur destinée. Donc, avec les mêmes mots interprétés différemment, il y a beaucoup plus de force et moins de soumission.
D'accord.
Ah oui, parce que automatiquement, plus de jeu, plus d'ironie, plus de distance.
Oui, oui. Parce que je me souviens, parce que l'imaginaire, j'ai dû le voir quand même. Mais à un moment donné, ce fameux malade, il veut que sa fille épouse un médecin.
Exactement. Mmh. Mais justement, pour moi, c'est le sujet central.
Ah,
c'est
voilà.
cette histoire d'amour qui triomphe.
Ah, voilà.
Et ces jeunes qui prennent leur liberté.
Oui. Ouais, c'est et tu joues dedans ? Non.
Allez. Je joue. Quatre personnages, oui.
Quatre personnages ?
On est cinq à jouer tous les personnages.
Ouais.
Donc il y a que le malade qui joue.
Qui bouge pas.
Son rôle, puisque c'est quand même une partition un peu espèce.
Spéciale.
Voilà. Ouais. Et en même temps, ça joue sur le sens. C'est-à-dire que c'est comme deux côtés d'une pièce. La jeune actrice qui joue Angélique joue aussi la belle-mère.
Mmh.
Donc, psychanalytiquement, c'est assez intéressant. Et celui qui joue l'amant, Cléante, le jeune sympa, on va dire, qui aime la musique, donc il est aussi DJ, et il joue aussi Thomas Diafoirus, c'est-à-dire le côté plus obscur, le côté plus ridicule, voilà.
Ah ouais.
Donc
il y a
toujours ces deux pièces.
Et on les confond pas. Enfin, on sait pas que
pas
c'est.
Pas du tout. On les confond pas du tout.
C'est pas mal ça.
Ils sont très dessinés.
Ah oui. Et il y a une tournée de prévue
On espère. Pour le moment, là, c'était juste la création. On a profité que ce soit les 400 ans de la naissance de Molière pour avoir un petit éclairage sur ce projet. Mais en fait, c'est vraiment à partir de 2023 que le spectacle va rester au répertoire de la compagnie et qu'on va vraiment le tourner et le reprendre. Voilà.
Pour l'instant, il y a des dates à donner ?
Non, pas encore. Non,
pas encore.
Pas encore.
D'accord.
C'est tout nouveau. Voilà. D'autant plus que moi, j'ai fait en même temps sur l'enfer que j'ai joué à
l'Essayant. Ah oui, c'est pas du tout le même registre. Hein. Comment tu fais pour passer de Molière à Henri Barbus ?
C'est ça qui est génial. On peut vraiment s'amuser et être dans des univers très très différents et dans des registres très différents. Puis là, en plus, avec quatre personnages, je suis vraiment dans des registres très différents. Donc puis c'est une aventure humaine parce que je joue avec des amis.
Ouais.
Donc, c'est hyper agréable.
Tu devrais l'embaucher, lui, moi.
Inch'Allah.
Il adore jouer. Hein.
Absolument.
Je sais.
C'est un beau comédien.
Philippe aussi aime jouer. Les comédiens qui dureront, qui sont encore là, oui, on aime toujours jouer. Et puis Fabienne, qui a travaillé avec moi sur l'enfer, aime toujours chanter. Voilà.
Fabienne, t'as amené ton nouveau disque.
Oui, justement. Alors, c'est le dernier album. Il a été enregistré en live, enfin en direct, au Connétable, justement. Et j'étais retournée au Connétable pour fêter mes 40 années de carrière.
Déjà 40 années ?
Oui. Ça se voit pas. Et voilà, donc, en fait, j'ai repris un petit peu toutes les chansons qui ont compté pour moi et dont une que j'ai écrite avec Jacques. Et
faut dire que Fabienne, c'est la sœur de Jacques.
Oui.
Pour les gens qui ne le savent pas.
Voilà. Donc je ne sais pas si on pense passer une chanson, peut-être Femme Flamme, parce que ça, c'est en rapport c'est une chanson que j'ai écrite en hommage aux femmes et contre la guerre aussi. Donc justement pour faire suite
bien.
À ce
que oui. bien avec il va le passer.
Qu'il faut
Nicolas.
Continuer à se battre pour qu'elles aient accès au savoir.
Voilà, il va la passer Nicolas.
Elle s'appelle Femme Flamme, c'est une chanson que Femme j'ai
flamme.
Écrite
D'accord.
en hommage aux femmes.
Femme Flamme, je la dédie aujourd'hui à toutes les femmes qui sont dans cette salle. Femme birmane ou femme afghane, femme d'Orient, femme d'Occident, femme flamenco, femme tango, femme flamme. Chérie, Maria, Joanne, Isabelle, femme incendie, femme chandelle, femme flamme. Vous qui savez si bien aimer, vous qui savez si bien donner, flamme d'amour et de lumière, flambeau de la vie, du mystère. Femme cuir ou femme dentelle, la même volonté veille en elle, la même foi. Femme percussion, femme violon, femme poésie, femme chanson, elles aiment au bout de leurs intuitions, de leurs passions. De Singapour à Bogota, leur cri d'amour n'a qu'une voix, le miracle de donner la vie, donne à la vie tout son prix.
Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao.
comme en écho la reprise de Bella Ciao en persan par les femmes iraniennes. Radio Libertaire 89,4 MHz.
Donc il vient de paraître le disque où,
ça fait pas longtemps.
Mémoires enchantées, on peut le trouver
À Publico.
À Publico.
Par exemple.
À Publico.
Je les remercie parce qu'on peut trouver tous mes disques là-bas. Et
donc c'est bien, moi j'aime bien, ça a été enregistré pendant un concert au Connétable.
Voilà.
Ah, c'est super, et puis c'est bien enregistré.
Enfin, c'est très bien enregistré, c'est Frédéric Pierre. Un ami de longue date qui est un très très bon ingénieur du son qui est venu et qui a enregistré.
Et puis j'aime bien le titre Mémoires enchantées, c'est bien ça, c'est pas mal. Ouais. 40 ans de carrière,
ouais.
Concert live, et puis t'es pas mal sur la photo. Hein. Lunettes noires, guitare. Ah oui, ça c'est fait très rock'n'roll. Hein.
Beatles,
très rock'n'roll, ouais. Bon, on ne l'a pas trouvé sur au Connétable. Non, pas au Connétable. Enfin, tu peux déjà l'apporter au Connétable, mais je veux dire, on le trouve à Publico. Voilà.
Oui,
voilà.
On peut le trouver à Publico, oui.
Ah, ben c'est super. Mémoires enchantées. Voilà.
Tu retiens l'adresse du Publico.
Publico 145 rue Amelot.
Voilà.
Dans le 11e à Paris.
Rue Amelot.
Et puis peut-être que si par exemple on donne ton adresse mail, tu peux l'envoyer aussi, je veux dire.
Bien sûr.
Tu peux envoyer le disque. Ton adresse mail c'est contact@fabel, F comme Fabienne, A, B comme Béatrice, E comme Émilie, L comme Lily, L comme Lily, .fr. contact@fabel.fr.
Tout à
voilà,
fait.
Très bien. Et j'ai juste une petite annonce à faire, justement, pour Publico. Alors, en ce moment, il y a un spectacle à Publico, un spectacle avec des chanteurs malgaches de Madagascar, qui s'appelle c'est un concert de la couture de No Border Week, ni État ni frontière, tout ce qui est humain est nôtre, par le groupe Sora Jano Vona, musique traditionnelle malgache. C'est en ce moment là à Publico. Et la semaine prochaine, samedi 29 octobre à 16h30, Fanchon Demers, j'espère que je prononce bien, accompagné par Jacques-Yvan Duchesne, font un concert, c'est Les Oiseaux de Passage. Voilà, et c'est pareil, hein, c'est le chapeau à la sortie, hein, c'est entrée libre. À 16h30, la semaine prochaine.
Au Publico.
À Publico, à partir de 16h30. Voilà, j'avais ce message à passer. Alors, on va passer à Sophie. Après, si on a un petit tour de table, on refera un tour. Sophie, tu es venue avec plusieurs textes.
Alors, je suis venue avec des extraits de 3 livres. Je suis venue avec des textes que j'ai écrits. J'ai réfléchi au sujet du secret, au thème du secret. Et donc là, ce sont des femmes qui ont des secrets, ou des enfants, un petit garçon, une petite fille. Voilà,
ce sont des textes que tu as écrits ?
Il y a des textes que j'ai écrits, il y a des textes que j'ai tirés de livres, des passages qui m'ont interpellée, qui peuvent parler de sujets très particuliers, notamment des dégâts que peuvent créer le secret ou pas.
Ah, ben tiens, ça pourrait être intéressant. Justement, j'ai commis un livre à ce sujet. Mais enfin bon, on en parlera plus tard.
Donc le premier texte... c'est une nouvelle que j'ai écrite. Il y avait deux contraintes, c'était un exercice. Il fallait que ce soit du genre fantastique et que le mot ombre apparaisse. Donc,
ah, d'accord. Mais tu participais à une émission sur Radio Libertaire.
Oui, alors il y a quelques années maintenant, j'étais sur,
comment, déjà,
au Café de la Page.
Au Café de la Page.
Romain K.
Je me souviens, Romain K, oui. Je l'avais invité plusieurs fois ici. Et à la suite de ça, il avait monté sa propre émission, voilà. Romain K. Et même, j'étais allée à ses spectacles avec Jean-Marie
Oui, le Kibélé, ça s'appelait, je crois.
Oui, c'est ça, oui. Tu étais là
Alors moi, j'organisais plus.
Ah, t'organisais, ouais.
Et donc, il jouait dans la cave du Kibélé. Et ensuite, c'est devenu l'émission. Et donc là, je participais...
Oui, il y avait Maureen Essiver.
Maureen Essiver, tout à fait.
Une chanteuse de grand talent.
Tout à fait, voilà. De jazz. Ouais. Et j'avais fait 2 émissions de sous de scène il y a quelques années aussi, avec elle et Romain. ah, l'été.
Ah, voilà, voilà, voilà. Et donc, tu as pris le virus, maintenant, tu aimes dire des textes.
Voilà, après, j'étais comédienne il y a longtemps, ça fait longtemps que je ne joue plus, mais j'écris toujours, aujourd'hui, je suis infirmière. Et je reviens à mes anciens amours, je me remets à étudier le piano pour chanter, et je retombe sur ce que j'avais écrit avant. Et
ah bah c'est bien, c'est super. Bah on t'écoute.
Donc c'est une petite nouvelle qui s'appelle Petite Fée. Donc c'est une petite fille qui parle. Je déteste aller au lit. Papa et maman ne comprennent pas. Ils me disent des choses d'enfant comme « Pyjama, les dents au lit !» Mais moi, je trouve ça injuste qu'ils me parlent comme un bébé. Je me sens très seule depuis que nous sommes arrivés ici. Je vois bien que maman se force à sourire, qu'elle n'est pas heureuse. Et je vois bien que papa fait semblant de ne pas voir. Nous avons déménagé dans l'Aveyron.
Quelle drôle d'idée,
a dit mamie Jeannette quand maman lui a annoncé. J'aime bien mamie Jeannette. Elle me parle comme à une personne, comme à quelqu'un de normal. À elle, peut-être que je pourrais lui dire ce que je n'arrive à dire à personne. Mais quand elle viendra, parce que mamie, elle habite à Paris. Un jour, dans son salon, maman et elle se sont disputées. Maman a dit les mots « folle » et mamie « stupide ». Nous sommes partis. Maman était furieuse. « Elle me saoule avec ses histoires sordides de sorcières », a dit maman. Dans la rue, après, j'ai bien entendu. Je crois que j'avais 9 ans parce que j'avais mes boucles d'oreilles en turquoise et que mes oreilles ont été percées pour mon anniversaire un peu avant ce jour-là. Maman avait été tellement triste, je ne sais pas trop pourquoi, à cette période. Un jour, j'ai dormi chez mamie, juste après cette dispute, parce que papa et maman voulaient aller au cinéma. Mamie regardait la télé et moi, j'étais dans la chambre des enfants. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. La lumière du couloir était allumée et je regardais la porte. Je comptais les moutons, mais ça ne marchait pas. Et puis, j'ai senti un frisson me parcourir de partout. C'était bizarre et très agréable. Et puis, j'ai aperçu une chose. Ça n'avait pas clair du tout, comme une forme, une légère ombre qui traversait la chambre et sortait par la porte. J'ai eu peur, mais j'étais aussi surprise et heureuse, assez bizarrement heureuse. J'ai gardé après cette nuit cette sensation agréable de me sentir détentrice d'un secret. Je pense que je pourrais le dire à mamie, mais maintenant on n'est plus à Paris. J'ai appris à l'école et à la télé que les choses bizarres n'existent pas. Alors je me suis dit que j'avais dû rêver et je n'en ai parlé à personne. Et puis un an après, je le sais à cause de mon anniversaire, maman est redevenue très triste. Elle pleurait. Pas devant moi, mais je voyais bien que son maquillage coulait. Mamie est venue, elles ont beaucoup parlé, et moi, de la chambre, j'ai entendu des mots bizarres comme « ange »,« sorcière ». Cette fois, maman a plus écouté que d'habitude. Le soir, je me suis levée en cachette, sur la pointe des pieds, et je me suis cachée dans l'embrasure de la porte. Maman et mamie avaient allumé des bougies. Elles avaient étalé des jouets sur la table et des lettres. J'ai senti un grand frisson d'un coup, et cette fois, j'ai vu que je n'avais pas rêvé, parce que l'ombre est arrivée, tout doucement, que maman et mamie l'ont vue, et l'ombre était toute petite, de la taille d'une poupée, et s'est glissée dans les bras de maman, qui a commencé à la bercer et à pleurer doucement. Les boucles d'oreilles, je les mets tout le temps. Elles n'ont pas été achetées pour moi, mais à une petite fille qui n'existe plus maintenant. Je pense que ça veut dire qu'elle est morte, mais je ne sais pas qui c'est. Elle n'a pas de nom. Alors j'ai réfléchi et j'ai imaginé que c'était peut-être une petite fée qui m'avait prêté ses boucles d'oreilles. Et puis un jour, j'ai fouillé dans la chambre de maman pendant qu'elle prenait sa douche. Papa était au travail. Il travaille tout le temps, il n'est jamais là. J'ai fouillé dans les tiroirs à côté du lit, du côté de papa et du côté de maman. Et de ce côté-là, j'ai trouvé des photos de moi et d'un tout petit bébé que je ne connais pas.
Oui, merci.
Bon, c'est la première fois que j'ai écrit quelque chose de fantastique. Voilà. Mm-hmm. Normalement, c'est assez réaliste. Le deuxième texte, c'est un extrait d'un livre qui s'appelle Anne Predaille d'Henri Troyat, qui est paru en 1973. Et donc il s'agit de... Donc, Anne Predaille est le protagoniste principal. Et donc elle vit chez ses parents. Sa mère est en train de décéder d'un cancer généralisé. Cette femme vit une histoire d'amour avec un homme qui s'appelle Laurent. Sa mère s'appelle Millie, ou Emilienne. Et donc elle est en train de, voilà, de vivre ses derniers jours. C'est très gai. Emilienne se dressait péniblement sur l'oreiller. Sa main faible et mal dirigée naviguait dans l'air, comme pour écarter un drap. Son pied gauche pendait hors du lit. Anne replaça délicatement le pied sous la couverture. Un rictus découvrit les dents de la malade. Des larmes coulèrent de ses paupières fripées. « J'ai mal, Anne. J'en peux plus. » Cette plainte misérable atteignit Anne en plein de chair. Elle ne voulait plus entendre cela. Plus jamais. « Où as-tu mal, maman ?» Emilienne ne répondit pas et renversa la tête sur l'oreiller en geignant. Une bête la dévorait de l'intérieur. Assez. Assez. Avec décision, Anne s'approcha de la table à médicaments. Ses mains tremblaient. C'est maintenant qu'il faut agir. Si j'attends plus longtemps, je ne pourrai plus. Elle souffre trop. Mais que vais-je lui donner en échange de cette souffrance ? Que sais-je de la nuit où je l'envoie ? Mon Dieu, aidez-moi. Non, pas Dieu, moi seule et vite. Elle saisit une ampoule de morphine et en scia la pointe. Ses doigts n'avaient plus de force. L'ampoule lui échappa. Une partie de son contenu se répandit par terre. Elle aspira ce qui restait. Le liquide montait dans la seringue, une eau de mort, claire, transparente. Encore une ampoule, la cassure nette. L'aiguille pompait le poison. Le piston forçait dans le tube. La main d'Anne se crispait. Elle allait lâcher prise, une autre ampoule et une autre encore. Le docteur Morin avait dit de ne pas dépasser la dose. Cette fois, la seringue était pleine. Le piston presque entièrement sorti. Pas une bulle d'air, tout était prêt. Ni coton, ni alcool. Pardon, maman. Cette exclamation silencieuse éclata dans la tête d'Anne et elle se crut sur le point de défaillir. Vida la seringue dans le lavabo, oubliait tout. Non. Dans un effort de volonté, elle se pencha sur le lit. « Allons maintenant, maintenant !» Elle marmonnait. Elle prit le bras d'Emilienne, le souleva avec précaution. Elle manipulait un squelette si sec, si léger. Sous son regard, cette peau d'ivoire, flétrie et douce, dont chaque centimètre carré lui était plus cher que sa propre peau. Elle planta l'aiguille. La malade ne tressaillit pas. Ce fut son cœur Anne qui ressentit la piqûre au plus profond de son cœur. Elle se mordit les lèvres pour ne pas crier. Le piston de la seringue chassa le liquide. Mais si lentement, le niveau n'en finissait pas de descendre, elle allait devenir folle. Encore quelques gouttes, Anne retira l'aiguille d'un geste net. Ses jambes fléchissaient, elle arrangea la tête de Millie sur l'oreiller, bien au centre. « Tu m'as fait ma piqûre !» chuchota Emilienne, sans rouvrir les yeux. « Merci, ma chérie !» Anne se domina et dit d'une voix faible. « Maintenant, Millie, tout ira bien, il faut dormir. »« Bon, alors, c'est ça, tu veux que je dorme ? Mais donne-moi la main, serre fort !» Anne se rassit brisée dans le fauteuil, au chevet du lit, et prit dans sa main la main étroite qui s'abandonnait. À présent, Millie souriait, lui semblait-il, avec malice. Comme si elle avait tout compris, comme si elle approuvait tout, puis cette moue de science heureuse s'effaça de ses lèvres. Une attente interminable commença, dans l'immobilité et le silence, avec, comme seul témoin, les objets. Le regard fixé sur le visage clos de Millie, Anne sentait son propre corps qui s'ankylosait lentement. Son cerveau devenait de plomb, elle avait oublié son père, Laurent, elle était seule avec son acte. Cette nuit n'aurait pas de fin. Comme elle paraît calme maintenant, ai-je mis assez de morphine? Pourquoi la mort ne vient-elle pas? C'est long, c'est trop long. Saisi par un sommeil comateux, Milly ronflait, les lèvres entrouvertes, on lui dit que dans ce corps chétif, une usine travaillait par saccades, avant de s'arrêter à jamais. Soudain, un clapotement horrible traversa la gorge d'Emilienne et s'échappa en un profond soupir. Ses paupières se levèrent sur ses yeux en billes. Le trou de sa bouche s'ouvrit démesurément. Puis tout s'arrêta. Les traits se figèrent. Ni la bouche, ni les yeux ne se refermaient plus. « Maman !» Anne se laissa tomber en travers du corps inerte. Elle sanglotait et pressait contre sa poitrine, cette tête chaude encore. Elle couvrait de baisers ce front, ses joues qui ne sentaient plus rien. Plus tard, elle se maîtrisa et ferma les yeux. Et la bouche de la morte, un linge sous le menton, Milly avait enfin l'air de dormir, délivrée, sereine, guérie. Anne se rassit dans son fauteuil, les épaules appuyées au dossier. Elle considérait avec étonnement, avec amour, cette femme indifférente, allongée sur le lit et qui, semblait-il, et pour qui semblait-il, notre histoire venait de commencer.
Oui. On ne connaît pas trop Henri Troyat. Enfin, c'est-à-dire qu'il est connu, mais Anne Prédaille, non.
Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps.
Moi, je me souviens de ce titre.
Ah oui.
Oui.
Henri Troyat, bon, je crois que c'est un... Il était très connu, on le trouvait un peu partout dans les bibliothèques, mais peut-être qu'aujourd'hui, on le lit moins. Ouais. Et pour la petite histoire, ma mère a été la secrétaire d'Henri Troyat.
Ah oui,
ouais.
Ah,
c'est incroyable.
Ouais. J'avais lu un livre de Troyat, toute petite, j'avais lu View, c'était un livre qui était plutôt pour les enfants à l'époque. Ouais. Et je suis tombée par hasard sur ce livre, vous savez, dans les boîtes où on peut avoir échangé des livres.
Ah
et,
ouais.
Et j'étais particulièrement marquée.
Les boîtes aux livres.
C'est ça.
Ah ouais, c'est pas mal.
La dualité qui se passe dans ce personnage. Et voilà.
Est-ce que tu veux pas le dire la prochaine fois, l'autre extrait?
Ah, bien sûr.
Parce que moi, on n'a pas dit un mot. Tu as des choses à dire, moi?
Ou pas. Non, pas vraiment.
Pas vraiment. Bon, bah alors, vas-y alors.
Alors j'ai où un extrait? J'ai plusieurs choses.
Parce que là il reste plus que 5 minutes à peu près.
Je vais dire juste un extrait d'un livre qui s'appelle La cicatrice.
D'accord.
D'un auteur qui s'appelle Bruce Lowery, qui est un auteur américain. C'est
d'accord.
Un livre qui est sorti en 1960. C'est un livre qui m'a fait pleurer. Je pleurais tellement que j'arrivais plus à lire.
D'accord. Et après on refera le tour.
Et c'est très court.
Juste le tour de table pour dire les spectacles et puis voilà.
Donc c'est un petit garçon qui parle. J'ai depuis toujours une cicatrice sur la lèvre supérieure. Les médecins disaient, sans cruauté, en triturant mon visage et en tirant sur ma lèvre comme un acheteur inspecte la gueule d'un poulain, que c'était un bon travail de raccommodage. J'aurais dû deviner que c'était en réalité un petit bec de lièvre. Mais il était tellement bien réparé qu'on parlait toujours de cicatrice. Ma mère n'a jamais su mentir, surtout aux êtres qu'elle aimait. C'est pourquoi l'histoire qu'elle me racontait n'était jamais tout à fait semblable. Tantôt, il s'agissait d'un accident. J'étais tombée de mon lit après ma naissance. Tantôt, une chute sur le ciment quand je faisais mes premiers pas. Je sentais toujours que gênée, elle cherchait vite à détourner la conversation. Et comme moi aussi, j'avais peur d'une chose à peine devinée, je n'insistais jamais, comme je n'aurais pas manqué de le faire pour toute autre chose. Je ne le savais pas alors, mais ce qu'elle me cachait là, c'était l'un des plus grands chagrins de sa vie. Ce n'est que bien des années après que, hésitante, confuse, elle devait m'avouer la vérité sur cette cicatrice. Elle lui avait fait, je crois, plus de mal à moi, à elle-même. Plus de mal qu'à moi-même. Pardon.
Merci. Donc, c'est deux...
Donc, c'est un auteur qui s'appelle Bruce Lowery, avec L-O-W-E-R-Y. Et donc, c'est un petit garçon qui se perd dans les mensonges. Donc, il y a cette fameuse cicatrice et qui se perd dans les mensonges. Et je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Il est magnifique. Et il se met à mentir, à commencer à mentir et à mentir et à mentir. Et ça devient dramatique.
Ah, d'accord.
Il s'enferme dans le secret. C'est magnifique.
Ah oui, d'accord.
Il est magnifique.
Ben merci Sophie. On aura l'occasion de se revoir. Je
avec
crois
plaisir.
Que tu participes aux émissions quand il y a Ariel.
Ariel et Elsa. Oui.
Voilà.
Et
Et puis voilà. Puis moi, je serai là le 24 et le 31 décembre. Voilà.
Je travaille un week-end sur deux, donc il faudra voir.
Oh ben voilà. Très bien. Alors, on refait le, juste pour rappeler vos différents spectacles. Il y en a, ils sont nombreux. Bon, allez, on commence par toi, Isabelle.
Oui, Guerre et Paix au restaurant Le Connétable, cabaret, à 19h30, les jeudis 17 novembre 2022 et 15 décembre 2022.
Voilà.
Le Malade Imaginaire au temps du Covid, j'espère en tournée sur le Val-de-Marne et puis à Paris, j'espère aussi la saison prochaine, en 2023-2024.
Fabienne ?
Je veux juste dire que mes disques sont en vente à Publico et en ce moment je travaille sur un nouveau spectacle mais qui n'est pas encore prêt.
D'accord, voilà, Mémoires Enchantées, on le trouve chez Publico ou on peut le commander à ton adresse mail contact@fabel.fr. Voilà.
Philippe. François Rabelais, Portrait d'un homme qui n'a pas souvent dormi tranquille. Au théâtre Essaillon, les vendredis 19h15, samedi 19h15, jusqu'au 10 décembre.
Voilà, merci. Et toi, alors oui.
Si on a un peu de temps, je vous lirai un petit texte de Gaston Coutet, le gars qui a perdu l'esprit. Par chez nous, dans la vieille lande, où est-ce que ça sent bon la lavande ? Il est un gars qui va, qui vient, en rôdant partout comme un chien, et tout en allant, il dégoise. Des sottises aux gens qu'il croise. Honnêtes gens, pardonnez-lui, car il ne sait pas ce qu'il dit. C'est un gars qui a perdu l'esprit. Ouais, là-bas, vous, là, bourgeois qui passe. Arrive ici, là, que je t'embrasse. Oui, t'es mon frère que je te dis. Car, quoique t'as des beaux habits et moi des hardes en guenilles, j'en tous deux la même famille, non? Ouais, là-bas, le gros vicaire, oui, qui menait un défunt en terre. Les morts n'ont pas besoin de vous, car ils ont beau laisser leurs sous pour acheter votre yo bénite. C'est point ça qui les ressuscite. Ouais, ouais, là-bas, vous, là, monsieur le maire, dis-moi donc, pourquoi donc faire qu'on arrête les chemineux, quand vous, qui n'êtes qu'un voleur, et peut-être bien encore, le gouvernement vous décore? Voilà, Gaston Coutet.
Bravo. Alors, la semaine prochaine, à l'émission, il y aura Céline Samy pour un spectacle qui se donne au Lucernaire et qui parle de la gouvernante de Proust, Madame Albaret.
Céleste.
Hein?
C'est pas Céleste?
Céleste,
oui,
Albaret.
Céleste Albaret, voilà. Céline Samy. Et Moa, tu as deux invités.
Oui. Ben, il le sait, Nicolas.
Non, mais c'est toi de le dire pour les auditeurs.
Ah, pour les auditeurs, d'accord. J'ai oublié les auditeurs, auditrices. Oui, donc il y aura Fred de Bérénice qui n'a pas pu venir la dernière fois et qui vient, donc qui a reporté son rendez-vous pour le 29. Et puis, il y a un autre monsieur qui est directeur du théâtre Calame à Colombes, qui viendra également pour parler des différentes actions qui se font en banlieue, justement, à Colombes et à Saint-Denis, actuellement.
Voilà. D'accord, très bien.
Et là, tout de suite...
L'émission s'achève. Merci à tous et à toutes.
Merci à toi, merci à moi.
Et puis, à bientôt.
À bientôt.
Merci beaucoup.
À bientôt, merci beaucoup.
Et là, tout de suite, sur l'antenne de Radio Libertaire, eh ben, c'est Bulle Noire Magazine du Polar avec un thème un peu particulier. Vous savez, quand on organise des concours et qu'il y en a un qui remporte le premier prix du Polar de tel endroit, ben, il y en a quatre qui perdent. Eh ben, c'est ceux-là qu'on va recevoir.